direct du salon du jeu de société de Paris, notre envoyé spécial vous ramène un bon podcast.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de quelqu'un qui est assez connu mais qu'on ne sait pas qu'il a créé un jeu aussi. C'est le Dr Mops. Bonjour Dr Mops.
Bonjour, bonjour.
Alors Dr Mops, bon, est connu pour ses accointances avec certaines personnes célèbres du jeu.
On ne sait pas trop pourquoi il est connu, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est ça.
Pourquoi est-il connu ?
Parce que j'arrive à me fourrer un peu partout au moment où il faut. Voilà, c'est une question de relationship et puis aussi d'argent, parfois.
De tactique et de culot aussi.
Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Et puis en fait, là je peux en parler maintenant parce que je suis arrivé à un âge quand même où je peux me permettre. En réalité, je suis nègre. Beaucoup de jeux qui sont sortis sont de moi, mais on est obligé de mettre des noms de gens connus dessus.
C'est bien de soulever une infamie comme celle-là, oui.
Oui, parce qu'il y a des gens qui sont très vieux maintenant et évidemment, ils ne peuvent plus être autant créatifs qu'avant. Donc voilà, je pense à des gens comme Bruno Feduti, Philippe Despalières, Dominique Erard. Tout ça, ça fait longtemps qu'ils ne font plus de jeux, donc il faut bien... Donc il y a un staff de jeunes qui travaillent pour eux.
Donc on peut dire que le jeu de société en est là, on est à l'avènement du métier de l'ombre du jeu de société.
Ben oui, c'est comme tout, il y a des gens qui parlent bien, qui présentent bien en public et qui sont là de...
Ce qui n'est pas ton cas.
Voilà, c'est ça. Donc nous, on est obligé de... Oui, moi, j'ai un profil de radio.
Oui, voilà. Ça tombe bien. Ok, donc... Parmi les jeux qui portent ton nom, enfin oui, ça c'était une erreur de jeunesse en fait, d'avoir fait un jeu qui finalement portait le nom de Dr Mops.
Non, c'est parce que j'étais pas assez payé par celui à qui il était destiné, donc j'ai finalement à la fin j'ai mis mon nom et il le savait pas, et du coup il a plus osé le dire après. Ah oui. Et comme ça.
Ça s'est mal passé finalement quoi.
Et non, ça s'est pas mal passé. Non, il y a d'ailleurs. Mais maintenant, je vais changer. Maintenant, quand je vais faire des jeux, on va mettre les deux noms.
Ça, c'est bien, ça. Donc, Info et Dr Mops, quoi. Le jeu dont je voulais parler, c'est une histoire avec des petits nains qui cultivent, qui font de la prospection, etc. Tu te souviens de ce jeu-là ?
Ah oui, c'est une œuvre de jeunesse, ça. Hein. Ouais. Ça remonte au moins à. Oui, voilà.
Au moins ça. Ça s'appelait Skull, juste ?
Ça s'appelait Skull, oui. Voilà. Qui veut dire à la tienne.
Étienne.
Voilà.
Ça, c'est le vrai nom de Dr Mops, c'est Étienne.
Étienne, c'est Raoul Mops.
Ce jeu, Skull, a un mécanisme assez intéressant. C'est un jeu de majorité.
Oui.
Est-ce qu'on peut rebrosser, puisqu'on ne l'avait pas encore fait dans cette séquence-ci, le portrait de ce jeu-là ? Vite le mécanisme, comme ça.
Alors, c'est un jeu de majorité parce que pourquoi ? C'est juste les jeux que je préfère. Et au départ, moi, je n'ai jamais tellement eu l'idée de faire des jeux, puisque j'ai passé pendant très longtemps à les jouer. Ensuite, j'ai passé mon temps à les critiquer, en bien ou en mal. Et puis, je me suis dit un jour... pour parler plus vrai, il s'est trouvé que j'ai aussi testé pas mal de jeux d'auteurs en création. Et j'ai pu voir l'aspect fabrication d'un jeu, conception, comment est-ce qu'on retourne les règles comme une chaussette. Et mon premier jeu, Skull, en fait, je l'ai fait non pas pour qu'il soit édité au départ, aussi curieux que ça paraisse, je l'ai fait pour faire plaisir à certains de mes amis auteurs de jeux.
Et, parce que le jeu plaisait.
Parce que je voulais que le jeu leur plaise à eux.
Oui, d'accord.
Le reste m'apportait peu. Et j'avais envie d'un mécanisme, ce que moi j'appelle les mécanismes paradoxaux. C'est-à-dire un jeu où il faut faire quelque chose, mais si on le fait trop, c'est foutu.
Ouais,
voilà, il y a un moment de point de rupture qu'il faut éviter de dépasser.
En l'occurrence, le nain cherche de l'or, mais il aime bien boire de la bière aussi.
Alors le nain cherche de l'or, et dans tous les jeux, c'est l'or qui fait gagner, sauf que là, c'est la bière.
Voilà.
Mais il y a des gens qui se laissent prendre au piège en disant les règles sont mal faites parce que avec l'or, on ne gagne pas. Voilà. Alors faut que je leur dise, c'était voulu. Hein.
Donc l'idée de ce jeu-là, Skull, c'est de passer dans différentes régions et de prospecter de l'or. Mais bon, ça c'est assez simpliste, donc quand intervient la bière enfin...
Alors en fait, le vrai truc, c'est qu'il y a de la bière, et que pour fabriquer de la bière, il faut être majoritaire dans un territoire. C'est un jeu de territoire où il y a des majorités. Celui qui est majoritaire a le droit de construire un établissement de bière, et il va rapporter autant de points qu'il y a de pions adverses présents dans cette région. Et donc pour avoir la majorité, forcément, on se bat et on amène des trucs. Et plus ça grossit, plus l'enjeu va devenir important. Et alors jusque-là, c'est pas très intéressant, parce que le premier arrivé gagne, comme dans tous les jeux de majorité. Et ce qui se passe avec l'or, c'est que l'or, c'est un moyen de grappiller quelques points de temps à autre, mais c'est surtout le moyen de faire bouger les pions des autres, de manière à faire changer les rapports de priorité dans les zones.
Oui, c'est ça, parce qu'à chaque fois qu'on découvre de l'or, eh bien les nains des régions adjacentes sont attirés, il y a de l'or, et donc ils y vont. Et donc ça permet de faire augmenter la majorité.
C'est le phénomène de rumeur, parce qu'à Orléans, on est sport en rumeur. Donc il y avait un petit côté historique. Voilà, et donc moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse bouger les pions des autres, et qu'il y a un moment un peu chaotique, où il faut sentir le truc. Mais c'est ce que j'appelle un jeu à paradoxe, parce qu'effectivement, c'est un jeu où il y a un système qui marche tout seul, mais il faut le briser absolument pour qu'il fonctionne vraiment.
Ouais, finalement, comme tu le disais, on gagne le jeu en brisant cette routine qui est bah, « il me faut de l'or ». La logique de... C'est une logique qui fait venir les personnages là où il y a de l'or, mais finalement, une fois qu'il y a une auberge qui est montée, là, on ne peut plus prospecter de l'or. Et l'idée, bah, c'est que les autres joueurs doivent s'enfuir, en fait.
Oui, alors évidemment, s'il y a une situation de monopole qui s'installe, il faut vite se tirer de la zone, parce que chaque joueur, à son tour, on va marquer des points. Et ça, c'est très énervant, parce que pendant qu'on fait ça, on ne gagne pas autre chose. Mais voilà, c'est le dilemme du jeu. Soit on laisse gagner en disant qu'on va récupérer quelques points, mais ça ne suffira pas. Est-ce qu'on joue pour la deuxième ou la troisième place, ou est-ce qu'on essaye de déstabiliser ? Pour déstabiliser, il faut se mettre à plusieurs. Donc c'est un jeu de majorité, mais c'est aussi un jeu de négociation. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, parce qu'il n'est pas présenté comme tel. Et on peut vraiment pas jouer dans son coin, c'est-à-dire qu'un joueur qui est en tête, il faut vraiment qu'il y ait une alliance contre lui pour le débouter.
C'est d'autant plus énervant, cette histoire de monopole d'auberge, qu'en fait, à chaque tour, on a droit qu'à une seule action. J'imagine que ça a été un choix au niveau réel, qu'il y a eu, pendant le développement, il y a eu plusieurs manières de jouer son tour.
C'est un jeu qui joue aussi, oui, sur la frustration. C'est pour ça que ce sont des nains, ils se déplacent pas vite. Ils arrivent à gagner pas mal de trucs, mais voilà. Mais ça a posé un problème avec une certaine partie du public qui n'ont pas vu le paradoxe tout de suite et qui sont tombés dans le piège et qui m'en ont voulu très fort. Parce qu'ils m'ont dit, mais quand on met un nain et que l'autre il en rajoute, et qu'on en met un et que lui il en rajoute, mais le premier il aura toujours plus de nains que moi. Je fais, effectivement, mathématiquement ça se tient, c'est pour ça qu'il faut pas le faire.
Faut le sentir venir.
Oui, il faut préparer un peu la situation à l'avance. Donc c'est effectivement un jeu où la première partie on patauge, on n'a pas de visualisation de ce qui va se passer, et donc il faut pratiquer au moins une partie pour ensuite se positionner au départ de telle sorte qu'on ait des chances de pouvoir intervenir sur plusieurs zones à certains moments.
Petite digression contemplative. Je trouve que le mécanisme de Skull n'a pas vieilli, dans le sens où on est toujours face à des jeux de majorité, on est toujours de plus en plus face à des jeux qui ont un mécanisme paradoxal. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, le fait de... Allez, il y a des jeux qui ont vieilli, je dis, ouais, mais ça c'est vraiment vieille école. Skull, je trouve que, allez, c'est très flatteur, mais voilà.
Le problème des jeux paradoxaux, c'est qu'effectivement, ils proposent des paradoxes et c'est pas forcément très très populaire. Donc c'est pas forcément un gage de succès, parce que le paradoxe ne brosse pas toujours dans le sens du poil. Le problème du paradoxe, c'est que dans certaines parties, il y a les joueurs qui vont l'avoir compris tout de suite et les autres. Et les autres sont un peu mécontents de s'être fait avoir sur une première partie par ce genre de choses. Moi, ça m'amuse qu'on découvre dans la partie comment ça marche. Mais c'est vrai que c'est une mentalité spéciale qui fait que j'aime bien découvrir un jeu sur plusieurs parties pour essayer de voir à quel moment ça coince, à quel moment...
Quitte à jouer des années après. Rejouer.
Voilà. Mais Skull a eu un autre problème, c'est qu'il était vraiment très mal foutu. Alors, oui, mais c'est que des histoires rigolotes, malheureusement, pour le jeu. Et c'est que les nains sont petits parce qu'il est sorti en même temps que Himalaya de Régis Bonnecé, qui est un excellent jeu. Et les figurines ont été moulées par la même entreprise ensemble. Et visiblement, manquant d'instructions un peu précises, les gens qui ont fait les nains les ont fait à la taille des yaks d'Himalaya. Donc, s'il y avait une extension Himalaya avec des nains, ça marche très bien. Mais pour Skull, ça marchait pas bien du tout. Les pépites, c'est pareil, elles sont tellement petites qu'on les voit pas sur le plateau et qu'en plus, il faut être super habile pour les saisir. Et là encore, c'est pareil. Ça a été sans doute une erreur de ma part, parce que je suis quand même qu'un auteur débutant. Au départ, Skull se jouait avec des dés. et les pépites étaient des dés. En fait, le nombre de la face du dé indiquait le nombre de pépites à ramasser. Et chaque fois qu'on ramassait des pépites, on baissait la valeur du dé, ce qui était beaucoup plus visuel. Et on m'a dit, oulala, il y a 36 dés dans le jeu, ça coûte beaucoup trop cher, t'as 2 heures pour nous trouver un autre truc. Et là, moi, j'ai repensé immédiatement à Full Metal Planet. J'ai dit, mettons du gravier, des vraies pépites. Trouvons des graviers d'or. Et on m'a dit, ça y est, on a trouvé. Et quand j'ai vu arriver, c'était pas des graviers, c'était des atomes d'or. Malgré tout ça, le jeu a eu un certain succès. Et je remercie beaucoup les gens qui l'ont apprécié, malgré la difficulté de la manipulation que ça a pu malheureusement donner.
Bien, merci Monsieur Mops. Docteur Mops, pardon.
Ben, ça fera 300 euros. Merci.
À bientôt.
Merci de votre audience. Merci, chers auditeurs, et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.